Vous aimez mieux les disques ou la radio?
Mais c'est du podcast, du podcast.
Oui, mais très bien, je vois très bien.
Tous les invités ont répondu présent.
C'est la bonté même, la générosité.
Nous sommes arrivés à un carrefour historique.
Nous sommes en veine de générosité tous les deux. Qu'est-ce que cela signifie?
Le Podcaston, c'est le premier rassemblement caritatif des podcasts francophones propulsés par Altrui. Nous vous remercions de soutenir les associations qui seront mises en avant pendant cet événement.
Bonjour, je suis Sébastien et je vous souhaite la bienvenue sur Santé et Sécurité, le podcast, dans ce tout premier épisode de notre Podcaston 2024 consacré à la Fondation des Amis de l'Atelier. Pendant 7 jours, plus de 300 animateurs et animatrices de podcasts se mobilisent pour mettre en valeur le monde associatif et ses valeurs. Pour ce premier épisode de notre Podcaston 2024, je suis avec Sandra Gardel, qui est directrice de la communication et de la collecte à la Fondation des Amis de l'Atelier. Bonjour Sandra.
Bonjour Sébastien.
Alors Sandra, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs ?
Oui, alors je suis Sandra Gardel, donc tu l'as dit tout à l'heure, directrice de la communication et de la collecte de la Fondation des Amis de l'Atelier depuis presque 10 ans. Donc j'ai cette double mission de communication, donc une mission en somme toute assez classique, mais également une mission de collecte, de développement de ressources pour permettre de financer des projets innovants à la Fondation.
D'accord, eh bien enchantée Sandra. Alors, je l'ai expliqué dans l'épisode d'introduction, mais je le répète à nouveau, je suis vraiment ravi de faire ce podcaston 2024 avec cette belle association, cette belle fondation plutôt, qui est la Fondation donc, des Amis de l'Atelier. Est-ce que maintenant que tu t'es présenté, tu peux nous présenter ta fondation ?
Avec plaisir. Donc, la Fondation des Amis de l'Atelier existe depuis plus de 60 ans et accompagne 4000 personnes, enfants et adultes, en situation de handicap dans près de 100 établissements, services et dispositifs. Les personnes que nous accompagnons sont des personnes avec handicap psychique, mental ou relevant des troubles du spectre autistique.
Alors, une association ou une structure comme la vôtre, comme la Fondation des Amis de l'Atelier, ce sont des établissements d'hébergement, des services d'accueil de jour, des services à domicile. Dans le jargon, on dit des MAS, des FAM, des IME, des CAJ ou encore autres SAVS et CESAD. Pour l'auditeur qui ne côtoie pas le handicap ou le secteur médico-social, ces acronymes peuvent paraître complètement abstraits. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que sont ces établissements, ces services et ces dispositifs, et puis comment ils servent l'accompagnement des personnes en situation de handicap ?
Oui, tu as raison. Nous sommes un secteur avec beaucoup d'acronymes qui sont souvent peu éclairants. Alors déjà, je tiens à dire que autant le secteur médico-social, jusqu'à il y a quelques années, était effectivement une succession de structures, de services, d'établissements. Donc, les personnes en situation de handicap étaient affectées, entre guillemets, via la MDPH, orientées, dit-on, dans le secteur, vers une maison d'accueil spécialisée, vers un foyer, vers etc. Donc, ça existe toujours, les établissements-services, mais de plus en plus, la notion de parcours est importante. C'est-à-dire que maintenant, et ça depuis les dernières lois handicap, qui datent d'il y a maintenant 20 ans, l'idée, c'est de se centrer autour de la personne. Donc, l'accompagnement, ce n'est pas la personne qui s'adapte à l'établissement ou au service, c'est bien le service ou l'établissement, voire les dispositifs qui vont apporter une réponse à la personne en situation de handicap. Donc, ça, c'est la première chose. Par rapport aux acronymes, moi, j'aime bien parler, on va dire, plutôt de sens de l'accompagnement. Donc, on va plutôt dire que la Fondation, elle accompagne les personnes tout au long de leur vie, à travers différents prismes, la vie sociale, la vie citoyenne, le travail, le logement, l'accueil de jour et les loisirs. Un peu comme toi et moi, Sébastien, on se lève le matin, on se prépare, on va au travail, on a peut-être un déjeuner professionnel ou personnel, et puis on retourne au travail et le soir, on a peut-être un loisir, une activité. Et bien en fait, les personnes en situation de handicap, en fonction de leur type de handicap, vont pouvoir être autonomes sur certaines parties de leur vie, certains axes, et pas sur d'autres. Et nous, notre mission, c'est de les accompagner au mieux de leur volonté et de leurs souhaits sur les axes où ils n'arrivent pas à y aller tout seuls, en fait.
Quand on a préparé cette série de podcasts ensemble, on a discuté un petit peu et je me souviens d'une phrase que tu m'as dit. Tu m'as dit « La maladie, ça se soigne et le handicap, ça n'est pas une maladie, ça se compense. »
Oui. En fait, tout à fait. Alors ça, c'est un débat linguistique, mais pour nous, c'est important. Nous, on travaille sur le handicap psychique, c'est-à-dire que les personnes qu'on accompagne, on est là pour les aider à compenser dans leur vie quotidienne et trouver des moyens de vivre le plus normalement possible. La maladie psychique, c'est une affaire de sanitaire. Nous, on n'est pas dans le sanitaire, on est dans le médico-social. Donc effectivement, une maladie psychique se soigne, puisque c'est une maladie. Un handicap, c'est la conséquence peut-être de ta maladie, mais un handicap, ça se compense. Et nous, on est dans cet axe-là. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas en lien avec du sanitaire. Mais voilà, nous, les personnes qu'on accompagne, elles sont par ailleurs, si elles l'ont besoin, soignées par le sanitaire avec qui on est en lien. Mais nous, notre mission, c'est vraiment l'accompagnement tout au long de leur vie sur les aspects sur lesquels ils ont besoin d'être accompagnés.
Sandra, tu nous as dit que la Fondation, c'était à peu près une centaine d'établissements. Donc, vous êtes déployés sur quel secteur géographique? Sur toute la France? Beaucoup sur l'Île-de-France, je crois.
Oui, oui, nous sommes déployés historiquement sur l'Île-de-France. Alors, en fait, ça vient de notre histoire. Parce qu'on est né à Châtenay-Malabry. Alors, si tu me laisses la possibilité de raconter l'histoire, je la trouve assez jolie.
Mais évidemment, c'est une belle histoire en plus pour la connaître.
En fait, en 57, Anne Sommermeyer, qui habitait à Châtenay-Malabry, rencontre des familles qui ont des enfants. À l'époque, on disait arriérés-mentaux. Donc, ce n'est pas très joli, mais c'était le terme qui était utilisé à l'époque. Et elle se rend compte du désarroi et de la fatigue de ces familles. Et elle propose à 1, 2, 3, 4, 5 familles de les aider ponctuellement pour faire une forme de répit. Maintenant, on parlerait de répit. Et petit à petit, elle se fait aider par des amis de Châtenay. Et puis, ben, un enfant, c'est toujours un peu bruyant. Peut-être qu'un enfant en situation de handicap peut l'être parfois un peu plus. Et très rapidement, il n'est plus gérable de pouvoir les garder chez elle, même ponctuellement. Et donc, elle se tourne vers la communauté protestante de Châtenay-Malabry. Elle était convertie au protestantisme. Et elle se fait prêter sur un terrain une petite cabane en bois pour accueillir ses enfants, mais j'allais dire de manière assez informelle. Et en 1961, les enfants, j'aime bien dire qu'on prend tous un an chaque année, et ben les enfants n'y coupent pas. Et ces enfants-là grandissent. Et à l'époque, en fait, avoir un travail, c'est avoir une utilité, c'est avoir un statut. Et elle se dit, ces enfants-là, même s'ils sont différents, même s'ils ont un retard mental, je veux qu'ils aient un jour un travail. Et donc, elle fait la démarche, à ce moment-là, l'agrément sur les premiers CAT, maintenant on parle des AT, sortait. Et elle a créé le premier atelier, pratiquement, je crois, en Île-de-France. Et elle a démarché des entreprises pour justement permettre d'avoir du travail et d'expliquer, de former les jeunes dont elle avait la charge à ce travail. Donc, ça a été le premier atelier créé. Mais pour créer cet atelier, il fallait créer une association. Parce que c'était dans des normes, on va dire, bien particulières. Et c'est pour ça qu'en 61, l'Association des Amis de l'Atelier a été créée. Alors, c'est un nom un peu accouché dehors, je vous l'accorde, tous. Mais en fait, c'est l'association parce que c'est l'association loi 1901. L'atelier, ben, on a compris. Et les Amis de l'Atelier, parce qu'en fait, c'est toute une communauté autour qui a permis la mise en place de cette structure. Et puis, ben, un enfant, ça grandit, un enfant, ça apprend un métier, puis un enfant, ben, il faut qu'il se loge de manière la plus autonome possible. Et du coup, l'association des Amis de l'Atelier a commencé à se poser la question de développer des logements pour ses enfants, etc., enfin, pour ses enfants devenus adultes. Et petit à petit, l'association des Amis de l'Atelier a créé en escargot autour de Châtenay-Malabry des établissements, des logements, des accueils de jour. Et c'est pour ça qu'on est extrêmement présent dans le 92. Sauf qu'en fait, d'année en année, ça s'est développé. On a eu des directions et des conseils d'administration qui ont œuvré pour cela. Si bien qu'en 50 ans, la Fondation a ouvert 50 établissements et services. Et en 2011, pour le 50e anniversaire de l'association, il a été décidé, un peu en amont, mais ça a été acté en 2011, que ça devienne une fondation avec une assise encore plus solide. Et voilà. Et aujourd'hui, on en est à 100 établissements, services et dispositifs, 4000 personnes accompagnées, 2300 salariés. Et on est présent en Île-de-France, donc je disais beaucoup dans le 92, mais maintenant dans tous les départements d'Île-de-France, et également en Haute-Vienne, puisqu'on a repris des établissements qui appartenaient à une autre fondation à un moment donné. Et donc voilà, d'où la présence en Haute-Vienne. Et par rapport à ça, tu parlais tout à l'heure des établissements et services. Alors oui, on a 100 établissements, services et dispositifs, avec justement ce que je te disais, la notion de parcours et puis la notion de transversalité dans l'accompagnement. Et puis on a une démarche actuellement de restructuration aussi en pôle, parce que l'idée, c'est vraiment de pouvoir accompagner le parcours des personnes. Et on s'est rendu compte qu'il fallait aussi qu'on se réorganise, nous, pour permettre une fluidité des parcours. Voilà, donc on est en restructuration aussi au sein de la Fondation, et c'est très intéressant, et les premiers retours sont très positifs.
Une restructuration dans le but de toujours améliorer l'accompagnement des personnes en situation de handicap.
Oui, là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir mutualiser en fait certaines fonctions, mutualiser certaines organisations pour permettre à une personne en fait de pouvoir bénéficier d'un accompagnement encore plus complet. Donc ça ne change pas nos établissements et services, mais l'organisation des professionnels et puis les pratiques. L'idée, c'est aussi d'homogénéiser nos pratiques, de pouvoir dupliquer les bonnes pratiques encore plus, de pouvoir amener une fluidité. Parce que, par exemple, une personne, c'est pas parce qu'une personne a une orientation MDPH vers un type de logement qu'elle ne peut pas évoluer dans ce type de logement. Par exemple, là, on est en train de développer beaucoup l'habitat inclusif, qui est un habitat autonome mais accompagné. C'est typiquement un projet que peut avoir une personne en situation de handicap et qu'elle peut travailler. Chaque personne en situation de handicap a son projet personnalisé. Et il est de notre responsabilité de l'accompagner au mieux de ses possibilités aujourd'hui, demain et après-demain, pour lui permettre de s'y rapprocher. Et cette organisation en pôle nous aidera aussi à être encore plus pertinent, peut-être plus performant, si on peut le dire, dans cet accompagnement.
Sandra, tu parles de projet, c'est un mot qui est assez prégnant au sein de la Fondation, parce que vous avez énormément de projets autour du handicap, justement, pour, comme tu le dis, pour accompagner le parcours des personnes en situation de handicap. Est-ce que tu peux nous en dire un mot ?
Oui, alors comme tu l'as bien compris, en fait, je dirais que tout ce qui est le mode projet, l'innovation, ça fait vraiment partie de l'ADN des Amis de l'Atelier. Si la Fondation, l'association puis la Fondation s'est autant développée déjà autour de la personne, alors qu'à l'époque, j'allais dire, les lois n'étaient pas faites ainsi, c'est qu'on a cette volonté, cet ADN-là, très, très présent à la Fondation et qui infuse dans l'ensemble de nos directions et des équipes. Alors, si on parle de projet, donc là, on a parlé de l'accompagnement à travers les établissements, les services, les dispositifs, les parcours, les pôles. Eh bien oui, on a des projets aussi. Par exemple, il y a quelques années, nous avons créé une plateforme insertion et emploi. Alors, emploi H-A-N-P-L-O-I. L'idée étant de pouvoir travailler sur l'insertion des personnes en situation de handicap dans le milieu ordinaire. Le milieu ordinaire, c'est le milieu de l'entreprise. En parallèle de milieux protégés que sont les ESAT. Donc, on a 8 ESAT, mais l'idée, c'était de dire, si on a des travailleurs qui souhaitent aller vers le milieu ordinaire, comment on les accompagne encore mieux ? Et même au-delà de ça, est-ce qu'on ne peut pas accompagner d'autres personnes en situation de handicap vers le milieu ordinaire ou les aider à être maintenus en poste dans le milieu ordinaire ? Donc, on a créé cette plateforme insertion et emploi avec des job coach, avec c'est une belle structure maintenant. Et typiquement, c'est cette plateforme qui a organisé, je dirais, notre première participation au Duo Day il y a maintenant 7 ans et qui a organisé et inventé le match retour qui s'appelle le Duo 2. C'est en fait, on invite des salariés à venir passer une journée en binôme avec un travailleur d'ESAT. Donc voilà, c'est une journée qui est organisée. C'est pas une visite, c'est vraiment une journée de binôme, de découverte. Et on a toujours d'excellents retours, d'excellents témoignages de personnes qui nous disent « Waouh, quel professionnalisme, quel savoir-faire !» Donc pour changer le regard sur le handicap, en fait, on peut faire ce qu'on veut, on peut faire des 4x3, mais le mieux, c'est de se rencontrer. Et la plateforme Insertion et Emploi, ça permet aussi d'organiser des événements pour se rencontrer. Ils ont aussi organisé un job dating inversé, donc avec des CV vidéo de personnes en situation de handicap qu'ils proposent, notamment sur LinkedIn. Donc, vous voyez, c'est des projets qui sont hors des établissements, des services, des dispositifs. C'est des projets transverses qui nous permettent d'avoir un impact sur l'insertion des personnes en situation de handicap. Et puis, on a d'autres projets. Il faut savoir qu'on a une direction du développement et de l'innovation qui travaille sur des axes, donc des axes notamment ceux qui ont été mis en évidence et portés par le projet stratégique validé par notre conseil d'administration. Et nous faisons du travail sur tout ce qui est père aidance, aidants familiaux, des séjours de répit, parce que les séjours de répit, c'est extrêmement important. Donc, nous avons développé des séjours de répit pour le secteur enfance chez nous, notamment à l'issue du Covid. Nous organisons des séjours de répit sur Limoges pour permettre aux familles, effectivement, du répit, mais aussi aux résidents du répit par rapport à leur foyer, par exemple. Parce que c'est, quand on est en foyer, c'est comme à la maison, on a envie de partir en dehors de son foyer. Et puis, on a aussi des projets qui, pour limiter la fracture numérique, donc former les personnes qu'on accompagne, qui le souhaitent et qui n'ont pas de, on va dire, de béaba numérique, pour leur permettre de vivre le plus normalement, on va dire, leur vie numérique et en sécurité. C'est important également. Puis, on a beaucoup de projets sur la mobilité. Alors, les projets sur la mobilité, c'est de se dire, bah, par exemple, nos travailleurs des ATT, ils vont sur des chantiers et certains, il y en a très peu qui avaient le permis de conduire. Et pourquoi ? Parce que non pas qu'ils ne soient pas en capacité de l'avoir, mais c'est que le stress du parcours du permis de conduire les mettait dans un état qui faisait que c'était compliqué de le passer. Et puis, ils le loupaient, il fallait repayer. Donc, il y avait un côté financier très important. Et on a réussi, à travers deux biais de financement, la taxe d'apprentissage et les mécénats, à financer un simulateur de conduite qui coûte 38 000 euros et à faire financer des permis de conduire, mais également des voiturettes électriques, des voiturettes sans permis. Donc, c'est vraiment des projets. On n'est pas obligé de le faire, on pourrait ne pas le faire. Mais nous, ce qu'on identifie, c'est que ça, c'est un axe de croissance important et de fierté et d'autonomie. Enfin, c'est énorme. Et on a monté cet axe mobilité et on a trouvé des financeurs pour cela. Et puis, il y a aussi un autre axe qui est important, c'est qu'on les accompagne dans une meilleure santé globale à travers un programme sport-santé. Donc avec des indicateurs médicaux, etc. Et au-delà de ce programme sport-santé, en fait, on a plein de projets portés par les établissements, services et dispositifs sur l'aménagement de parcours santé, de salles de sport, etc. Et pareil, on essaye de le faire financer et on y arrive souvent par des mécènes qui ont cet axe-là. Donc, je dirais qu'on a plein de projets. Et là, il y a un projet qu'on a lancé en fin d'année qui tient vraiment à cœur à notre conseil d'administration et notre direction générale, c'est de participer à des axes recherche sur la santé mentale. Donc là, on a lancé avec une autre fondation, la fondation Falleret et la FIRA, un appel à projet recherche sur la santé mentale.
D'accord, merci Sandra. Vous avez encore d'autres projets, me semble-t-il. On a d'ailleurs prévu un épisode prochain sur un de vos dispositifs, le dispositif Cité Bénévole, par exemple, qui va encourager le bénévolat auprès des personnes en situation de handicap, c'est ça. On peut en dire un mot très, très, très succinctement, encore une fois, parce qu'on en reparlera dans un autre épisode de manière plus exhaustive.
Oui, Cité Bénévole, c'est un dispositif dont on est particulièrement fier. On l'a créé en réponse à un besoin d'utilité sociale et d'exercice de la citoyenneté. C'est un dispositif qui a émergé dans le 77 et dès le départ, on a senti que ça allait être un dispositif puissant. Dès les 18 premiers mois, on a eu une centaine de bénévoles, 80 missions. L'idée, c'est quoi ? C'est de dire une personne en situation de handicap qui veut faire du bénévolat, elle va avoir du mal à démarcher une association pour aller faire son bénévolat et elle va avoir peur de ne pas pouvoir le faire, de ne pas pouvoir s'organiser, etc. Là, l'idée, c'est de les accompagner. Mais plus que d'accompagner les personnes en situation de handicap vers le bénévolat, c'est aussi d'accompagner les associations qui en ont besoin pour permettre cette relation triangulaire. C'est un dispositif super qui a été soutenu par Sophie Cluzel à l'époque où elle était secrétaire d'État, par Céline Poulet de la CIH. Vraiment, on a reçu un accueil exceptionnel. Dès 2018, une centaine de bénévoles recevaient le passeport bénévole avec France Bénévolat. Et depuis, mais on en reparlera dans le prochain podcast, mais en gros, ça n'a cessé de se développer. C'est sorti du 77, l'ensemble des départements parisiens s'en sont saisis. Et aujourd'hui, on est en route vers les JOP 2024, vers Paris 2024. Que ce soit d'ailleurs nos résidents et nos usagers d'Île-de-France et ceux de Limoges, pour être bénévoles. Donc, on va avoir 220 bénévoles sur les JOP. Et il faut savoir que le volontariat des Jeux Olympiques pour les personnes en situation de handicap, en fait, il y aura 800 personnes en situation de handicap qui vont être bénévoles. Et sur ces 800 personnes, 220 viennent de la Fondation des Amis de l'Atelier grâce à ce dispositif Cité Bénévolat qui a accompagné ces 220 bénévoles depuis 2 ans sur énormément d'événements sportifs, notamment des grands événements sportifs internationaux, le GESI, pour leur permettre d'exercer ce type d'action dans des gros événements, donc le championnat par exemple du parathlétisme, mais d'autres choses encore. On a fait plein de choses. Et aujourd'hui, on est assez fiers et on a hâte d'y être. Et c'est vraiment grâce à ce dispositif Cité Bénévole.
Eh bien, merci Sandra pour toutes ces explications. J'aurais voulu qu'on revienne un petit peu sur les ESAT. Tu as parlé du duo day, de job dating. Nos auditeurs ne savent pas tous ce que c'est qu'un ESAT et ce que font les travailleurs protégés dans les ESAT. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu et nous parler de ce type d'établissement ?
Oui, alors on parlait d'acronyme. Donc les ESAT, c'est Établissements et Services d'Aide par le Travail. Donc ce sont les anciens CAT. Alors, l'ESAT, en fait, c'est ça a la double casquette, c'est-à-dire c'est un établissement médico-social, mais qui a une activité commerciale. En gros, concrètement, et d'ailleurs mes bureaux sont au-dessus d'un ESAT, tu vas avoir dans les ESAT des ateliers, un atelier blanchisserie, un atelier espace vert, un atelier conditionnement, mais pas que. En fonction des ESAT, il peut y avoir tout à fait des activités bien particulières, comme on a un ESAT qui s'appelle La Vie en Herbe, qui fait de la culture de la récolte d'herbes aromatiques, de tisanes. On va avoir un atelier à Chennevières qui fait de la couture. Et en fait, les personnes qui travaillent dans nos ESAT, les usagers, les travailleurs d'ESAT, ce sont des personnes en situation de handicap qui ont eu une orientation par la MDPH vers les ESAT et qui vont pouvoir avoir une activité salariée dans nos ESAT, dans des ateliers. En fait, par rapport à leurs souhaits et leurs possibilités, ils vont choisir un atelier. Mais ce n'est pas parce qu'ils choisissent un atelier qu'ils vont y rester toute leur vie. Ils peuvent très bien, en fonction de leurs compétences, du développement de leurs compétences, de la formation qu'ils vont faire ou des formations qu'ils vont entreprendre, progresser et petit à petit passer dans par exemple, du conditionnement à un atelier restauration, de la restauration à un atelier. Voilà, en fait, il y a différents métiers en tant que travailleurs ESAT et ils vont pouvoir avoir, on va dire, une évolution de leur mission à travers des formations, à travers l'expérience également. Et puis, il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'il y a un dispositif qui s'appelle Différents et Compétents. En fait, c'est comme une valorisation de leur travail et chaque année, on a une 60aine de travailleurs, même un peu plus, qui présentent le différent et compétent sur leur atelier. Donc là, la dernière fois, j'ai croisé un travailleur, c'était la troisième fois qu'il passait différent et compétent. Donc il avait fait différent et compétent, il était labellisé entre guillemets, parce que c'est un label, pas interne, c'est national, mais il n'y a pas de, comment dire, c'est pas un label RNCP ou autre. Il avait eu conditionnement, restauration, et là, je ne sais plus ce qu'il m'avait dit. Peut-être sur de la papeterie, enfin je ne sais plus. Et c'était amusant parce que pour eux, c'est vraiment important. Et surtout, il y a une reconnaissance de leur travail et de leurs compétences. Reconnaissance qui est encore plus mise en avant lorsque justement, on organise les duos 2 où ils peuvent montrer à un binôme salarié du monde ordinaire, du milieu ordinaire, leurs compétences et ce qu'ils font. Donc ce sont des personnes qui ont un emploi du temps du lundi au vendredi, qui viennent travailler à l'ESAT, qui ont des missions, etc.
Eh bien, merci Sandra encore une fois pour toutes ces explications. Je pense qu'à ce stade du podcast, c'est important aussi d'évoquer le financement de la Fondation. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment est financée une telle Fondation ?
Alors, dans le handicap, on a la particularité d'être en grande partie financé par l'ARS, les ARS, Agences Régionales de Santé, et les conseils départementaux sur, on va dire, l'activité de nos établissements, services et dispositifs. Après, pour tout ce qui est projet dont je t'ai parlé tout à l'heure et projet innovant, nous n'avons pas de financement extérieur. Donc, il faut aller en chercher. Donc, on a plusieurs axes pour financer nos projets. Tout d'abord, effectivement, la collecte, la générosité du grand public. Donc, ce sont des dons, on va dire, standards qui bénéficient d'une fiscalité que vous connaissez et que tous les auditeurs du podcast en connaissent, avec une défiscalisation à hauteur de 60%. Et puis après, on bénéficie aussi de mécénats, donc d'entreprises qui nous soutiennent sur des projets déterminés, avec également une défiscalisation possible. Donc ça, c'est du mécénat qui peut être en numéraire, donc en argent, qui peut être mécénat de compétences, mécénat en nature. Il y a différents types de mécénat. Et nous, ce mécénat, il nous est extrêmement précieux au quotidien pour financer nos projets. Et puis, il y a d'autres pistes aussi. Et notamment la piste de... Alors, ce n'est pas de la collecte autant que telle, mais c'est la taxe d'apprentissage. On parlait tout à l'heure des travailleurs des ZAT et du fait qu'on les formait. En fait, la taxe d'apprentissage, c'est un impôt qui est dû par toutes les entreprises et qui peut être affecté à qui vous souhaitez, à des organismes formateurs. Mais c'est bien l'entreprise qui décide à qui elle va pouvoir l'affecter. Et on a la chance depuis quelques années, nous, ESAT, donc pas Fondation, mais les ESAT de la Fondation et les IME, donc la partie enfance, les établissements enfants, de pouvoir bénéficier de cette taxe d'apprentissage. Et donc concrètement, ça va nous servir à quoi cette taxe d'apprentissage si demain vous nous l'affectez ? C'est que ça va nous permettre de payer des ateliers de formation et de la formation. Ça peut nous permettre de payer du matériel pédagogique, des ordinateurs pour les former. Ça peut permettre énormément d'actions qui ne sont pas à ce jour finançables par nos ESAT. Pour les jeunes des IME, c'est pareil, ça peut créer de la formation, du matériel pédagogique, etc. Pour vous donner un exemple, l'année dernière, nous avons collecté 130 000 euros en taxes d'apprentissage. Si vous transformez ces 130 000 euros en formation en atelier, vous imaginez bien l'apport que cela a envers ces personnes qui, certes, dans, par exemple, les ESAT, vont être formées au quotidien par des moniteurs, mais qui ne vont pas pouvoir décider de formation au-delà de ce qui est prévu, je dirais, légalement. Donc, pour résumer, je dirais qu'aujourd'hui, la Fondation, oui, nous sommes financés sur le gros de notre activité par les ARS, les conseils départementaux, mais si nous souhaitons aller au plus près du besoin des personnes que nous accompagnons à travers des projets, comme je le disais, sur la mobilité, sur la santé, sur la citoyenneté, sur la fracture numérique, sur les séjours de répit, nous devons chercher des fonds extérieurs pour financer tout cela.
Ok, eh bien très bien Sandra. Juste pour clôturer cette partie, est-ce que peut-être tu peux nous indiquer comment une entreprise peut vous transmettre cette taxe d'apprentissage ?
Alors aujourd'hui et depuis l'année dernière, le process de la taxe d'apprentissage a un peu changé. En fait, à partir du mois de mai, vous aurez la possibilité sur le site Soltea de pouvoir aiguiller, orienter votre taxe d'apprentissage sur nos ESAT et IME. Donc ne cherchez pas Fondation des Amis de l'Atelier, mais cherchez bien les ESAT de la Fondation des Amis de l'Atelier ou les IME. Et si vous avez la moindre difficulté, vous pouvez nous écrire à tax@amisdelatelier.org et nous vous répondrons avec grand plaisir sur ce point. C'est vraiment un axe précieux pour nous. Cela ne vous coûte rien et ça permet vraiment de changer la vie de personnes en situation de handicap. Donc ça, c'est pour la taxe d'apprentissage. Et de manière générale, pour avoir plus d'informations, effectivement, et pour pouvoir donner et nous soutenir, on a un site internet qui est archi complet, donc www.fondation-amisdelatelier.org. Et vous allez pouvoir retrouver les actualités, les projets, mais également une rubrique « Nous soutenir » et vous allez voir qu'il y a mille et une façons de nous soutenir.
Eh bien, un grand merci Sandra pour ce premier épisode de notre podcaston 2024 qui touche à sa fin. J'espère que vous avez apprécié découvrir la Fondation des Amis de l'Atelier. Je vous encourage à aller visiter le site de la Fondation que Sandra vient d'évoquer et puis d'aller aussi visiter le site du podcaston, donc www.podcaston.org. pour découvrir des centaines d'autres associations à travers d'autres excellents podcasts comme Santé et Sécurité, le podcast. Et puis c'est aussi l'occasion, si vous en avez la possibilité, bien sûr, de pouvoir faire une promesse de don pour la Fondation des Amis de l'Atelier. Et là aussi, ça se passe très facilement sur podcaston.org. On compte sur vous. Merci de votre écoute et de votre fidélité. Je vous dis à demain dans un prochain épisode. Et n'oubliez pas, soyez acteurs de votre santé et de votre sécurité. Et surtout, prenez soin de vous.